I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oula.
Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits.
Il n'y avait rien de drôle là.
J'ai le droit de pas vraiment travailler.
C'est vrai.
Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille.
Oh. Ah mais c'est Secret Story sans les caméras.
Waouh.
Oh putain, elle aime
parce que t'as l'air bourré alors que tu bois de
l'alcool est dangereux pour la santé.
Il faut pas qu'on raconte trop notre
bien
vie.
Sûr.
Le but, c'est ça, reste intéressant.
Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas.
Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
Bonjour!
Les LM Crado, bonjour les LM Kiffeurs et les LM Kiffeuses. Bienvenue dans ce Laisse-moi Kiffer numéro 182. Vous le savez, nous le savons, il était censé être en live sur Twitch. Malheureusement, un problème géopolitique qui n'a rien à voir avec le fait que je ne sais pas lire un planning nous a empêchés de faire ce live. Nous avons donc dû nous sacrifier en allant boire des coups au bar à la place. C'était horrible. C'était vraiment insoutenable. Mais nous sommes évidemment au rendez-vous ce jeudi pour un épisode 182 de Laisse-moi kiffer qui du coup n'aura juste pas été sur Twitch. Vous ne pouvez donc pas voir ma magnifique combinaison jaune que j'ai eu la bonne idée de poster sur Instagram, ce qui a permis à l'intégralité des LM Crado de me dire « Ah, c'est la combi jaune de Kalindi dont vous avez parlé dans Laisse-moi kiffer !» Non. J'oublie 100% des discussions qu'on a dans Laisse-moi kiffer. Il faut le savoir. Je sors de cette pièce où on enregistre et mon cerveau efface ce qui vient de se passer. Donc j'avais totalement zappé cette discussion et comme un connard, j'ai acheté une combi jaune alors que peut-être Kalindi en a une à me donner.
Mais
c'est la vie. Mais j'en aurai du coup une deuxième. Avec des manches, je crois, parce que celle-ci est sans manches.
Trop de combi jaune, ça n'existe
pas. Trop de combi jaune, tue la combi jaune.
Est-ce que tu vas mettre le link in bio pour que les gens puissent acheter via un lien affilié et toi tu deviens riche ?
Non, c'est de la fast fashion donc j'évite. Sachez que si vous voyez mes fringues et vous dites « Oh là là, Mimi elle a des fringues cool », merci c'est vrai mais c'est aussi de la fast fashion donc ne soyez pas vexés si je ne vous donne pas le lien mais vous saurez où trouver des combis jaunes fabriqués dans des conditions bif bof à l'autre bout du monde.
Du coup, c'est un soleil aujourd'hui.
Merci, merci. Du coup, nous sommes dans Laisse-moi kiffer numéro 182 et comme d'habitude, je vais vous présenter mon équipe avec une question adaptée au contexte puisque sachez-le, c'est une des rares fois dans l'année où nous enregistrons Laisse-moi kiffer le matin et non l'après-midi. On va faire de notre mieux pour avoir une belle énergie de 14h30 mais en vrai il est 11h du mat et perso j'ai pas bu assez de café, mais ça va le faire. Du coup, ma question de Proust pour vous, c'est quel petit déjeuner êtes-vous ? Et du coup, je vais commencer avec toi Anthony parce que t'as l'air d'avoir un skill petit déjeuner quand même élevé.
Alors oui, effectivement, je suis assez monomaniaque, donc je mange la même chose depuis à peu près 4 ans.
Waouh.
Et c'est ma mère qui me disait « Oui, il faut qu'il fasse attention à ton cholestérol et tout. » Donc mange des flocons d'avoine tous les matins parce qu'apparemment, ça régule le cholestérol.
Source, la daronne à Anthony.
Oui, mais ma daronne est prof de nutrition, donc ça...
Ah, source experte, okay, autant pour moi.
Une petite expertise quand même.
Non, parce que ma daronne, elle me donne des conseils nutrition, mais je suis là, qui es-tu finalement ? Je ne sais pas.
Du coup, je mange des flocons d'avoine. Avant, je les faisais cuire au micro-ondes, mais j'ai arrêté. Parce que j'ai réalisé un truc génial, c'est que il suffit de mettre l'équivalent d'une tasse d'eau chaude dans tes flocons d'avoine pour les cuire.
Ah ouais?
À peu près.
Comme des nouilles instantanées.
Voilà. C'est effectivement comme des nouilles. En fait, ça n'a pas besoin d'être complètement cuit. Et justement, si c'est relativement mi-cuit, ce sera plus long à digérer. Donc, c'est encore mieux pour ton métabolisme parce que tu assimiles l'énergie plus lentement, de manière plus continue. Et en plus de ça, c'est des sucres qui ne vont pas trop rapidement niquer ton énergie. Et donc, c'est un indice glycémique plus bas aussi quand ce n'est pas totalement cuit. Bref, je m'égare, je deviens comme ma mère.
J'allais dire ça, il parle comme un fils de prof de nutrition quand même. Hein.
Non mais les repas à table chez moi, c'est du délire. Ma mère et moi, on se fait le refrain et le couplet. Bref, donc, flocons d'avoine avec une énorme cuillère à soupe de beurre d'oléagineux. Donc ça peut être amande, ça peut être cacahuète parce que c'est moins cher. Ou quand je suis hyper riche, noix de macadamia. Mais ça m'arrive
rarement. J'avais goûté du beurre de noix de cajou. Alors je pense que ça coûte 4 smic le gramme, mais c'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment délicieux et ça fait des bons gras supplémentaires pour tenir encore plus longtemps. Et après, je mets des fruits de saison, voire des fruits surgelés, parce que mes préférés, c'est les framboises. Et du coup, j'en ai toujours dans mon congélo. Voilà ! Et un litre de thé. Mais vraiment, je bois un litre de thé tous les matins, minimum.
Waouh ! écoute, un petit déjeuner très tight, très organisé. Et je trouve que c'est très Anthony, du coup, ça marche très bien. Et en même temps, très équilibré, merci, avec du plaisir, quand même.
Mais je suis faussement organisée. Hein. C'est justement, j'ai besoin d'une routine, sinon je suis beaucoup trop chaotique.
Sinon, je m'éparpille. Aïda, quel petit déjeuner es-tu finalement ? Une question que tu t'es sûrement posée moult fois dans ta vie.
Eh bien, plus de fois que ce qu'on penserait. Non, mais je suis encore sur le fait qu'on puisse cuire des flocons d'avoine avec de l'eau chaude. Parce qu'avant, j'avais un petit déjeuner organisé comme Anthony. Et après, j'ai arrêté d'avoir un micro-ondes. Et je suis devenue la personne qui mange le bout de pain qui traîne en se levant le matin. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup moins d'énergie avant midi, désormais. Bref.
Bon, laisse-moi kiffer qui s'annonce.
Si j'étais un petit déjeuner, je sais pas si je serais des ingrédients de petit déjeuner spécifiquement. Mais je pense que je serais le petit déjeuner qu'on fait pas soi-même et que quelqu'un nous apporte.
Yes. La flemme et le kiff.
Yes. Parce que déjà dans ma vie j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me fait du café et un smoothie presque tous les jours et du coup c'est vachement bien
et on l'embrasse, et
on l'embrasse,
café,
on le remercie.
Je le fais, smoothie je suis là, c'est d'être, j'ai la flemme, je le fais déjà pas pour moi, je vais pas le faire pour mon gars.
C'est l'intérêt d'avoir des horaires décalés, tu sais, il y a quelqu'un qui commence plus tard que l'autre et du coup les fruits surgelés ça marche vachement bien pour ça, c'est très plaisant. Mais aussi parce que, je sais pas, c'est un kiff, quoi, de dire « Ah, je me lève le matin, il y a quelqu'un qui m'amène mon petit-déj, je n'ai rien à faire à part remplir mon estomac et rester sous ma couette. J'ai envie que ce soit ma vibe aujourd'hui. »
Très bien.
Je serai ça.
Le petit-déjeuner dont on n'a pas à s'occuper et qu'on peut juste kiffer. Quelle vie. Mathis ?
Moi, je suis un petit-déjeuner de type soupir en ouvrant le placard, en mode « Ah, il aurait fallu faire des courses hier, tu le savais, tu avais la flemme, ce matin va être encore un matin décevant. » Je suis une personne qui fonctionne beaucoup en plus au sucré, donc genre quand je fais les courses, en fait je déteste faire les courses, du coup j'achète jamais rien, j'essaie de finir le truc le plus vite possible et j'arrive chez moi en mode « Bah oui, tu aurais dû acheter des choses. »
De faire des listes.
Finalement, on peut faire des listes, exactement, oui. Mais je suis désorganisé là-dessus. Et il faut savoir que depuis que j'ai le chien, c'est encore plus compliqué parce que je ne peux pas rentrer dans les supermarchés avec le chien. Et comme j'ai 6 étages, bah, à chaque fois, à chaque déplacement est calculé. Et je me dis « Merde, si j'ai le chien, il faut que je remonte et que je redescende et que j'aille jusqu'au Carrefour et j'ai la flemme. » Ou Lidl. Ou...
Tu peux pas l'attacher à l'entrée comme les gens y font ?
Si, je peux, mais je la reverrai jamais, donc on va éviter.
Ah ouais ? Les gens, ils volent des chiens ?
Ah ouais, les vols de chiens, c'est un vrai truc.
Abuselante, imagine même... tu vas t'acheter ta petite pizza Sodebo, tu sors, tu t'es fait tirer ton yinche.
Non mais wow. Horrible, déjà, t'as le seum d'avoir une pizza Sodebo, et en plus...
Alors, j'ai une petite passion pour une pizza Sodebo okay. En particulier, mais ce podcast n'étant pas sponsorisé, je ne vous dirai pas laquelle.
D'accord.
Mais on est extrêmement déçus.
C'est la rose avec de la roquette dessus, elle est trop bonne, bref.
Oh.
Elle est pas trop bonne, mais je sais pas, c'est comme un Royal Cheese, tu vois. T'es là, c'est pas le meilleur burger de ma vie, mais des fois j'ai envie de ce goût là.
Ouais. Ça marche. Ma junk food préférée, c'est les pizzas surgelées.
Pareil, vraiment, maintenant que j'ai un congélo et un four, première course, j'ai acheté 3 pizzas surgelées. J'étais là, yes, pour quand j'ai la flemme, ça me rend tellement heureuse.
Ok, donc on est sur un épisode du blasphème finalement, très bien.
Ok, moi, j'ajoute des trucs dessus. Genre, j'achète des pizzas surgelées et après, je rajoute mes ingrédients par-dessus.
Et est-ce que comme ça, t'es là en mode, j'ai presque cuisiné.
Je suis là, ah, je suis trop healthy.
Donc l'Italie est en feu.
J'ai rajouté de la sauce
quoi.
Sur ma pizza, mais elle est fraîche, elle est pas surgelée.
C'est très healthy de rajouter de la sauce sur des pizzas, je pense, de base. Pardon, Mathis, on digresse
non,
totalement.
Mais je vous en prie.
Non, petit et du déjeuner coup, de la déception, on était là.
De la déception, et puis en fait, il y a un truc aussi, c'est que je me lasse extrêmement vite. Donc ça, c'est valable pour tout. Mais c'est aussi valable pour les petits-déj où au bout d'une semaine, je suis en mode « Oh là là, je mange tout le temps la même chose, je n'en peux plus, je vais me rebrander » et ça marche pendant 3 jours et
new
au bout
year,
de 3 jours,
me.
Je suis en mode
«
Ouais, exactement !» Et puis au bout d'une semaine, j'en ai marre et je suis en mode « Eh bien, je vais tenter quelque chose de différent. »
J'ai l'impression que tu pourrais juste acheter différents trucs et avoir un petit-déj différent, toi, t'es pas obligé de...
Et ouais, donc faire des listes de courses, lâchez-moi.
On en revient au problème des courses, oui, j'entends.
Ouais, ouais, mais c'est un problème pour tous les repas globalement où je suis un peu en mode ah, j'ai pas envie de manger encore la même chose. Mon frigo fait bah oui, mais.
Bah fallait acheter autre chose.
Voilà.
Très bien. Merci Mathis.
Mais je vous en prie.
Moi je pense que je suis le meilleur petit déjeuner du monde, le petit déjeuner buffet à volonté à l'hôtel.
Oh.
Où t'es là, on rejoint le j'ai pas eu à m'en occuper, donc clairement on est dans une forme de flemme. Mais je suis aussi une personne qui est dans la team choisir c'est renoncer. J'ai du mal à. Prendre des engagements long terme et tout. Donc, évidemment, je n'ai pas de petit déjeuner chez moi puisque je ne mange pas le matin, sauf à l'hôtel, où du coup, je me lève exprès une demi-heure, voire 45 minutes en avance pour que mon estomac ait le temps de se réveiller. Parce que sinon, si j'arrive au buffet, au réveil, vraiment, je vais rien bouffer. Et j'aurai le seum, parce que les buffets d'hôtel, c'est trop bien. Et il y a tout le choix. Et t'es là avec ta petite assiette, tu fais n'importe quoi. Tu mets des œufs brouillés, tu mets de l'ananas à côté. Tu manges des trucs que tu manges jamais dans la vie, genre des flocons d'avoine. Jamais dans la vie, j'en mange. Mais s'il y a du porridge aux flocons d'avoine à l'hôtel, je vais être là. Mais évidemment, c'est mon plat préféré. ça n'a pas de logique, mais c'est un petit déjeuner qui ne choisit pas. Donc c'est very moi.
Attends, pousse, tu manges de l'ananas avec des œufs brouillés ?
Bah pas en même temps, mais clairement, petit déjeuner de l'hôtel, je suis là, bonjour, je voudrais tout, de tout. Je choisis de ne pas choisir.
Dans pousse, la même assiette.
Pousse deux.
Tu manges des œufs, oui.
Non, mais surtout, tu manges des œufs à l'hôtel, t'as peur de rien. Hein.
Pour... Ah non, mais moi, j'ai mais un estomac solide en vrai, hein. J'ai jamais eu d'intoxication alimentaire ou quoi. Donc les buffs, et puis après, je vais pas dans des hôtels ultra cheap non plus, tu vois, les rares fois où je vais à l'hôtel, j'essaye de kiffer quand même.
Ouais, parce donc, que j'ai bossé dans un 4 étoiles longtemps, dont je tairai le nom, qui est une grosse chaîne d'hôtels. Et vraiment, pour avoir vu les coulisses des œufs du matin, plus jamais j'en prends.
Ah non, mais c'est comme les gens qui bossent genre à Starbucks et tout et qui te dégoûtent de Starbucks. Et moi, je suis là, oh non, je voulais pas le savoir, je voulais juste prendre mon mocha de temps en temps, tu vois.
Bah, normalement, les normes d'hygiène pour les collectivités sont hyper strictes et c'est des œufs pasteurisés en bouteille. Donc, c'est plus propre que des coquilles fraîchement cassées chez toi. Hein.
Bah, en fait, on est sur un truc où, genre, on sortait des machins de la chambre froide de type sous plastique et c'était des trucs à moitié congelés et ils foutaient ça au micro-ondes. Et après, ils disaient, et après, tu mets ça là comment on appelle ça les machins ? Je cuisine jamais.
Un plat,
là,
quoi.
Une espèce de cocotte, je sais pas, un peu fancy, tu vois. Et genre, ils mettent le truc. Oui, bon, je sais que c'est pas une cocotte, arrête de rire. C'est une humiliation, cauchemar en cuisine. Et du coup, on mettait les œufs là-dedans en mode regardez, on vient de les faire à la poêle alors qu'il y avait personne en cuisine. Mais si, c'était n'importe quoi. C'était un truc, une barquette en plastique au micro-ondes il y a 2 secondes et on faisait croire aux gens qu'on l'avait vraiment fait dans un
petit plat. Mais dans tous les restos, ils font ça. Sachez que les 3/4 de la bouffe que vous mangez au resto, c'est du surgelé ou du reconditionné qui est présenté joliment et qui est réchauffé. Ça fait partie de l'industrie agroalimentaire finalement.
Et ben ça me rend triste. Voilà.
Ah oui, mais bon, si tu veux des œufs brouillés faits maison, bah, tu les fais chez toi. Mais du coup, c'est le petit-déj dont tu t'occupes. Donc, ce n'est pas fun. Anyway, cette intro est déjà longue. Est-ce que c'est pas l'heure des commentaires ? Je pense que c'est l'heure des commentaires. Anthony, t'es pas venu depuis longtemps, donc pas sûr. Ok, je te laisse chercher.
Merci.
Aïda, t'es ready ou pas ?
Non.
Moi,
j'ai un commentaire, mais il faut que je le trouve, pardon.
Mathis, t'es ready ?
Je suis ready.
Allez, c'est quoi ton commentaire ?
Donc, c'est une personne qui s'appelle Lulu Local. Lulu avec un E à la fin. Donc, Lulu Local, voilà. Bonjour ! Je suis en train d'écouter le dernier épisode sorti et je me suis dit que j'allais rebondir à votre passage, sur le Dry January. Donc, dernier épisode sorti, on est sur un truc qui date. Hein, c'est parce que c'était
dans
un commentaire.
Mois, ouais.
Voilà, c'était un commentaire suite au Twitch. Celui qui avait eu lieu, pour le coup.
Wesh!
Ça devait être le 176.
On avance, Mathis. C'est pas très grave le timing, on est déjà en retard.
C'est pas très grave. Je bois relativement peu et j'ai passé le cap d'après qui est de commander des verres d'eau dans les bars, encore plus rentable que le soft, et je me suis encore jamais fait sortir, alors que parfois vraiment je prends que ça. J'en profite pour vous poser une question existentielle. J'avais commencé à écouter au tout début et j'ai fait une grosse pause. Est-ce que je me lance dans une reprise depuis le début? Je pars des plus récents et je redescends ou je fais un mix des deux? En ce moment, je me suis dit, je suis parti sur un mix, c'est marrant de confronter les différences de format. Bref, merci pour ce podcast de la bonne humeur et pour toutes les recos. Et j'ai choisi ce commentaire tout simplement pour vous poser la question. Qu'est-ce que c'est pour vous la meilleure stratégie ?
En tant que non seulement membre de LMK since day one, mais aussi personne zinzin qui écoute les mêmes podcasts en boucle parce que se renouveler, c'est pour les faibles. Ma take, c'est reprendre depuis le tout début. Comme ça, tu vas suivre les private jokes au fur et à mesure et les évolutions de l'équipe et tous les moments où on était là, lol, en 2022, on fera plus LMK. Et en fait, si. donc, c'est rigolo. Et juste, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode qui sort, tu interromps ton rewatch, ton relisten pour écouter le nouveau. En tout cas, c'est ça que je fais par exemple avec 2 heures de perdu, que j'écoute en boucle, qui est un podcast ciné très marrant, français, que je vous conseille. Tous les mercredis, ils sortent un épisode, du coup je l'écoute, et le reste de la semaine, je réécoute des vieux épisodes, car je n'ai aucune forme de self-control. Voilà, donc c'est ma reco, reprenez depuis le début. Alors, Aïda, t'as trouvé ton commentaire ?
Oui, j'ai trouvé mon commentaire.
Super.
C'est un commentaire qui nous attaque, mais qu'on adore, qui vient
attaque
de... Pump it up, emoji, pastèque. Bonjour Pumpy. Hello Aïda, en pleine écoute du LMK qui vient de sortir, je t'envoie un commentaire, parce que la dernière fois, j'en avais pas. J'avais d'ailleurs une question pour toi. Où en est ton aventure du roller ? Tu mets ton casque ou pas ? Ou est-ce que tu en fais encore ? Entre parenthèses, ou c'est comme Mimi et la broderie ?
Wesh ! Putain, j'ai déménagé, j'ai retrouvé mon truc de broderie là que j'ai utilisé une fois. J'étais là... vraiment, quelle honte.
Eh bien, Pumpy Tub, j'évitais soigneusement le sujet rôle. Non, laisse-moi kiffer.
Et surtout qu'il y a Anthony, car, là, tu vas te faire démonter. C'est, on est sur le king du roller.
Non, mais Anthony, il lève les yeux au ciel régulièrement quand on parle de roller.
Nous le nommons désormais Monsieur Patin. Voilà.
Oui, eh bien, on en était resté à « je me suis fait une entorse et j'ai dû arrêter le roller ».
Ligament croisé, tu coco.
Et après, j'avais plus d'entorse, mais je me suis dit « ah, faut attendre un peu quand même, parce que même si t'as plus exactement une entorse, tu sens que ta cheville, elle est un peu bizarre, peut-être va chez le kiné ». Après, je suis pas allée chez le kiné. Après, j'ai pas repris le roller. Et après, ça fait 5 semaines que toutes les semaines, je me dis « allez, cette semaine, j'y vais ». Et cette semaine sera la bonne, puisque cette semaine, j'y vais. Pas parce que j'ai reçu un commentaire.
Tu vas jeudi soir, si. Le jour où on boit des coups en équipe et que t'as dit « je peux pas, j'ai roller ». Donc oui. Il va falloir que tu résistes à la tentation de « je pourrais aller boire ces coups-là et puis faire du roller demain », ce qui veut dire que tu n'en feras plus jamais. c'est un jeudi important. Je note de ne pas trop te harceler pour venir boire.
J'essaye de casser le cercle de la procrastination du roller, car j'ai payé mes cours à l'année.
J'entends.
Et oui. Que nous sommes en mars.
Oui, non, ça c'est une bonne raison.
Je suis allée 3 fois.
J'avais oublié l'aspect cours, je pensais que t'étais juste en train de te balader en roller. Mais...
Non, j'ai pris des vrais cours pour être meilleure. Et en plus, j'ai un casque recouvert de stickers d'excellence. Donc vraiment, il faut que je l'utilise. J'espère que la semaine prochaine, je vous dirai, je suis retournée au roller. C'est à nouveau ma passion et j'y retourne toutes les semaines. Et que ce ne sera pas comme Mimi et la broderie.
On sait pas. Peut-être je vais m'y remettre un jour, mais probablement jamais.
Voilà, et après on a donc Pump It Up fini par « Des bisous à toute l'équipe, changez rien, vous êtes trop drôles et intéressants, intéressantes, merci de nous faire découvrir autant de choses. PS, maintenant j'ai peur de croiser un pigeon quand j'écoute LMK.
» C'est normal, il faut toujours avoir peur de croiser un pigeon.
Absolument. Ne faites pas confiance aux pigeons.
Non.
Bisous. Anthony.
Mais demain, je compte bien servir, donc jeudi, le jour où Aïda devra résister à la tentation d'aller boire des coups, je compte bien lui servir de résistance supplémentaire car je compte squatter son cours pour m'assurer qu'elle va en refaire.
Surveille-moi.
Maintenant, je suis fâchée parce que ça veut dire que tu viens pas boire des coups non plus. Et moi, j'ai envie que tout le monde vienne boire des coups. Mais je respecte votre roller vie.
J'ai dit, faites pas ça le jeudi. J'ai prévenu.
Le casque ou pas le casque du coup ? J'ai l'impression d'être Léa Salamé.
Mais
Carlos Ghosn, la malle ou pas la malle ?
Mettez un casque.
Ouais, on va pas relancer le débat du casque. Mettez un casque.
Ça peut être le lundi soir. Mais pour les verts. Mais bon, ça regarde pas la même.
Mais lundi, j'ai roller soir. Après, on est en gueule d'up début.
Moi. J'adore.
Moi aussi, mais je peux pas encourager. Bon, c'est le travail. Donc.
Non, mais la modération, c'est important. Alors, j'ai reçu plusieurs commentaires, mais comme je suis une bille avec Instagram, je ne sais pas les retrouver. Mais j'en ai retrouvé 2 en attendant. Donc, un d'une certaine Manon.cfl qui me dit merci beaucoup pour LMK, j'adore cette émission. Je viens d'écouter le LMK 177, était beaucoup trop mims. Merci.
C'est vrai.
Je suis impressionnée par ton élocution et le vocabulaire que tu utilises.
FKA Twigs, non ? C'était l'épisode FKA Twigs 177 ?
C'est possible, je sais pas, je me rappelle pas de tête, vu que je suis invitée dans cette émission une fois par an. Mais.
Voilà.
Si vous voulez plus de Anthony, envoyez Anthony en DM au compte. Hâte, laisse-moi kiffer.
Oui, s'il vous plaît, merci, réclamez-moi et envoyez-moi encore des photos de vos chats, j'adore ça. Donc, elle dit aussi, donc, ça m'a beaucoup étonné son message parce que d'habitude, on me dit plutôt que j'articule super mal et que j'ai aucun vocabulaire, donc voilà.
N'importe quoi, qui t'a dit ça
qui sont ces gens ?
Ma mère, casse la gueule. Toujours.
Voilà.
Mais pour l'élocution, non, vraiment, il y a plein de gens qui comprennent rien à ce que je raconte. Hein. En plus, je parle super vite, mais c'est parce que j'écoute beaucoup trop de podcasts en vitesse x2, mais c'est une autre histoire.
Ah, t'es ce gars-là !
Oui.
Mais Anthony, tu vis un peu en vitesse x2, non ?
Oui, mais en fait, j'ai une théorie, c'est que plus t'en fais, plus tu peux en faire.
Ça voilà.
C'est-à-dire ?
Jusqu'à ce que tu tombes de fatigue.
Ou pas.
Dans mon cas.
Ou pas, parce que tu peux aussi plus dormir.
Smart. Accélérer toute la vie pour dormir 2 heures de plus, ça, c'est une méthode qui me parle, tu vois.
C'est ça. Voilà.
On se soumise à condition des magasins participants.
Je dors vraiment 8 heures. Et aussi, autre message trop mimes, pour les gens qui suivent vraiment bien LMK, vous vous rappelez peut-être d'une certaine Caillou qui nous avait demandé de faire une dédicace à une certaine Mélissa qui était chasseuse de bourdon. Et en fait, Caillou est venu me remercier, et remercier toute l'équipe de LMK, bien sûr, car en fait, Mélissa est tombée sur cette surprise qui a été diffusée dans LMK. Et elle vous remercie parce que c'est arrivé pile au moment de Noël. En fait, elle a écouté le podcast à ce moment-là. Donc Caillou nous dit merci beaucoup, on s'y attendait vraiment pas et ça a été un cadeau de Noël vraiment magique. Un autre merci à toi pour Matière Première. Donc ça, c'est vraiment totalement pas volontaire, mais allez écouter Matière Première. Hein, c'est encore disponible sur toutes les plateformes d'écoute et c'est
tout
un podcast mode super intéressant. Voilà, à mettre entre toutes les oreilles.
Animé par Anthony Vincent.
Évidemment, pour Mademoiselle. Voilà. Envoyez-moi des dédicaces parce que plus régulièrement, comme ça, je pourrais les retrouver plus rapidement.
Oui, c'est vrai qu'on a. Alors, on a plus de messages boubou que de dédicaces. Vous êtes chaud sur les messages boubou, me dit Mathis. N'hésitez pas à vous hydrater, prenez soin de vous quand même. Mais on aime toujours les dédicaces, c'est toujours très mignon. Moi, j'ai un commentaire audio pour une fois, puisque Fiona, grande fan de Laisse-moi kiffer, dont on a déjà parlé, notamment parce qu'elle m'a brodé un t-shirt pour une de mes meilleures potes, m'a envoyé des vocaux en s'excusant, car elle sait que je déteste ça. Mais il se trouve que je déteste un peu moins ça. Enfin, en fait, je suis cette connasse qui aime pas recevoir des audios, mais qui en fait parce que j'ai la flemme de taper.
Tout le monde fait ça.
Voilà. Mais non, j'ai des potes qui aiment sincèrement les audios. Ils sont là, ah, trop bien, tu as fait un vocal. Je suis là, mais gros, j'aime bien entendre ta voix.
Oh là là là.
Bah, écoutez mes podcasts, qu'est-ce que je vais vous dire. Et donc Fiona m'a envoyé un vocal que j'ai trouvé très marrant à ce moment-là et que j'ai 100% oublié, évidemment. Donc on va le redécouvrir ensemble.
Coucou Mimi, désolée, je dois faire des vocaux parce que je suis en retard au travail. Mais je sors de ma voiture là, j'écoutais LMK, le début de LMK. Bon, déjà, la partie sur Desperate Housewives, je vais rien dire, hein, mais c'est une de mes séries préférées et vous l'avez juste massacré. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est une série absolument géniale qui n'a pas du tout vieilli, je trouve, pour l'avoir regardée l'année dernière. Enfin bref, je la trouve géniale. Bon bref, passons, c'était pas ça mon propos. Mais en gros, là, je me suis arrêtée au moment où tu parles de Spotify. Et je sais que mon mec et moi, donc on a chacun notre compte Spotify. Et en gros, on a une playlist. Enfin, genre Spotify peut générer automatiquement une playlist de deux personnes. Enfin, pour deux personnes. Et en fait, c'est une playlist qui mixe les sons que vous écoutez le plus souvent en ce moment.
Mais c'est trop mignon.
Du coup, c'est grave bien parce que genre c'est vraiment les sons que tu écoutes en ce moment et que tu aimes écouter en ce moment. Et pour l'autre personne, c'est pareil. Et du coup, ça fait une playlist mix des deux qui est qui est générée chaque jour, qui est actualisée chaque jour. Et du coup, bah voilà, c'est stylé. Comme ça, si vous êtes chez vous, vous pouvez lancer cette playlist. Comme ça, chacun a 50% de bah genre de la playlist, tu vois. Voilà, c'est stylé. Bon, allez, bisous.
Merci beaucoup, Fiona. Alors, il faut savoir qu'il y a deux raisons très importantes pour lesquelles cette méthode ne marchera absolument pas dans mon couple. La première, c'est que je n'ai aucun intérêt à découvrir des nouveaux sons. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Mon mec, il m'a dit « Ah, oh, t'as pris Spotify, tu réécoutes de la musique. Tu veux que... » Et j'étais là « Non. » J'ai une playlist, il y a 5 sons dedans, je l'écoute en boucle, laisse-moi, je n'ai pas besoin d'autre chose dans ma vie, ça ne m'intéresse pas de découvrir des sons. Donc, si on fait ça, on va avoir une playlist commune où mon mec aura la même chanson de 10 minutes de Taylor Swift que j'écoute en boucle chaque jour que Dieu fait, il aura que ça, tous les jours, et moi j'aurai sa techno russe chelou avec du gabber et des trucs qui n'ont aucun sens et de l'électro moldave en plein milieu de mon Taylor Swift. Donc ce n'est pas possible, on est trop différents sur la musique. Mais c'est très mignon pour les gens qui veulent partager leur playlist avec leur amoureux, leur amoureuse, ou leurs amis, ou leur famille. Donc c'est bon à savoir que ça existe. Alright, c'est parti pour le message
boubou,
le message
ré,
le message
bourré,
qui est apparemment en deux parties.
Oh là, la team LMK.
Ah ouais, dur.
Ceci est un message boubou. Ceci est un message rire. Ceci est un message bourré. Ouais, je suis arrachée quand même.
Oui.
Je pense à vous parce que je me dis enfin, j'y pense. Mais en même temps, enfin, je suis bourrée parce que ça faisait très longtemps aussi. J'ai donné un concert ce soir, c'était trop bien, c'était incroyable. Le patron du bar, la programmatrice, tout ça, ils nous ont rincé à la fin du concert, ils nous ont offert une tournée, ils veulent nous reprogrammer et c'était trop bien, on a fait un super concert et on a fini à chanter dans le bar vraiment très fort, enfin c'était une péniche, c'est la dame de canton et du coup bah, je pense à vous parce que je vous adore. Vous êtes vraiment les meilleures personnes. Et merci pour tout ce que vous faites. Je vous connais depuis... Là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et je vous connais depuis que je suis au lycée. Donc, ça fait plus de 10 ans quand même déjà. C'est beaucoup. Oh là là. Ah ouais, bon. Eh ben, je vous fais des bisous. Merci d'exister.
C'est
je
pas
vous
du
aime
tout
fort.
Non, non. Encore 10 minutes.
Bisous. Ah bah quand je dis plus de 10 ans, après, en fait, je parle de Mademoiselle. Et puis, ben, votre émission à LMK, c'est depuis le début, depuis 3 ans, 4 ans. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, encore une fois, merci d'exister. Vraiment, mais... Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. C'est incroyable. Je vais m'endormir, moi. Tellement je suis... Bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Ah oui. Bisous. Comment ça s'éteint?
Attendez.
Je continue d'enregistrer, là.
Il y a une partie 2.
Oui. Alors attends, il faut savoir que du coup, la partie 2 est venue beaucoup plus récemment, donc le message Boubou daté d'il y a longtemps, car vous êtes très nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages et que je ne les ai pas forcément toujours pris dans l'ordre, oups, j'avoue. J'ai été répondre à ce message-là en disant « Oups, pardon, j'avais pas vu ». D'ailleurs, sachez, si vous avez envoyé des messages sur Instagram, des messages Boubou, que je réponds quand je les prends en compte. Je vous dis tout simplement merci, j'enregistre tout ça et bisous. Et la personne m'a répondu par un vocal. Je me dis « Tiens, c'est intriguant, voilà le vocal ».
J'espère qu'elle est rebourrée.
Je pense que pour gagner du temps, on peut lire le petit texte en dessous. Parce que du coup, dans la foulée, elle m'a envoyé un message. Voilà le message. Mimi, je te laisse le lire par-dessus.
Yes, ok. Alors, on a cet audio de bruit qui est une erreur. Et le message qui va avec, c'est... Oups, alors, le dernier audio est une erreur. Je voulais faire écouter à ma pote le message bourré. Et en fait, elle était en train d'enregistrer sans se rendre compte. Une nouvelle idée de chronique. Oh merde, ça enregistre. Gros bisous, la team. Mélissa, non, on ne va pas rajouter une chronique dans cette intro et dans ce podcast qui est déjà très long. Mais merci beaucoup pour ton message, Boubou, message réré. Très rigolo, on sent à la fois que ça te fait trop marrer d'être bourré et qu'en même temps t'es là, oula, je vais me coucher moi. Donc c'est un mood, et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, comme tu l'as dit, à consommer avec modération. C'est qui modération? Ok, c'est l'heure des kiffs, ma foi. Je pense que it's time d'arriver au cœur de ce podcast finalement. C'est parti pour le jingle.
Il s'agit des gros kiffs. Oui, c'est l'heure des gros kiffs. Tout ça pour les gros kiffs. Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer.
Waouh, merci Valentin.
J'ai failli rôter entre merci et Valentin.
C'est permis, c'est un podcast détendu. Mathis,
détendu de la gorge.
C'est quoi ton kiff?
Mon kiff est encore un documentaire cette semaine, car j'ai décidé de vous cultiver, cher public, et de me cultiver en fait, en vérité. C'est parce que je ne comprends rien au monde, donc j'essaie de comprendre un petit peu.
En même temps, le monde est compliqué à comprendre.
Le monde est compliqué. Je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais, le monde est compliqué. Voilà. Donc, le documentaire dont je vais vous parler s'appelle Media Crash. C'est le dernier documentaire de Mediapart qui est en salle de cinéma un petit peu partout dans les grandes villes en France et qui sera certainement en ligne ensuite. Mais vous savez, tout ça, la chronologie des médias fait que il y a des lois et on peut pas diffuser dans un cinéma et diffuser sur Internet en même temps. Gnagnagna, c'est compliqué.
Ouais, ce sera dans quelques mois, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Il y a un délai à respecter, en fait, pour pas concurrencer de manière déloyale les salles de cinéma. Voilà, donc c'est un documentaire qui s'appelle Media Crash, qui a tué le débat public, et qui s'intéresse tout simplement au fait que il y a quelques milliardaires, je crois qu'ils sont à peu près 9, qui possèdent de l'ensemble des médias et du paysage audiovisuel français, ce qui est un petit peu terrifiant quand on y pense. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. J'avais lu ce que faisait Julia Cagé, qui est prof à Sciences Po Paris et qui s'intéresse beaucoup à la question de la concentration des médias, et qui a écrit des livres un petit peu compliqués, il faut le dire, genre « L'information est un bien public » ou « Le prix de la démocratie ». Enfin, elle s'intéresse à toutes ces questions d'accessibilité du débat, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça pas boring. On va essayer. Et typiquement, j'avais vu un documentaire qui était assez court aussi, qui s'appelait « Le système B » et qui parlait de comment Bolloré, donc Vincent Bolloré, contextualisation, est un milliardaire français, breton plus précisément, parce que
de
j'ai
droite.
Un problème avec les bretons, enfin, de droite évidemment, qui possède...
Bien d'extrême droite pour Vincent Bolloré.
Oui, je pense qu'on peut dire bien d'extrême droite, qui est du coup la personne qui possède CNews qui était ITélé, rappelez-vous, et qui possède aussi Canal+, qui possède aussi Prisma Media, si je dis pas de bêtises.
Qui possède beaucoup
et
de choses,
possède
et
Europe
qui est en train de faire des
récemment.
Moves pour acheter le reste, et notamment des maisons d'édition, parce que là, il a acheté Hachette, par exemple.
Exactement, et qui possède
même
aussi
les livres
des
ne sont pas à l'abri de la
avec des manuels scolaires là-dedans. Et ça, c'est un bonheur quand on sait que du coup, c'est la personne qui impose un peu Zemmour dans le débat public.
On est ravis.
Voilà, et donc le documentaire de Mediapart comme le système B, essaie d'interroger cette question de la concentration et de comment ça influence en termes d'idées, en fait. C'est-à-dire à quel point le champ économique et le champ politique sont un tout petit peu liés et que c'est jamais complètement innocent. Donc, ce qui est assez marrant quand tu regardes le documentaire, c'est que donc, j'étais dans une salle assez remplie et on rigole beaucoup. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont vraiment énormes. Enfin, ils mettent des extraits d'interviews, genre de Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est LVMH et c'est plein
autre
de médias.
Autre milliardaire de droite qui possède plein de médias.
Ouais. Et du coup, il y a vraiment des phrases en mode « Ah mais non, moi je vois plus la possession de médias comme du mécénat, c'est complètement désintéressé. » Et en fait, c'est tellement gros, tu te dis « Waouh, est-ce que vraiment la personne
oui,
est sincère ?»
Il y a un côté, genre tu mettrais ça dans un film, on dirait c'est un peu caricatural, le milliardaire qui est là « Non, mais c'est du mécénat et tout. » Eh bien, parfois, la vraie vie est plus zinzou que les films.
Exactement. Et du coup, il y a pas mal de moments dans le film où comme ça, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'est gros ?» Et typiquement, en fait, ils ont découpé en plusieurs parties avec un peu plusieurs milliardaires iconiques dans le monde des médias.
Des milliardaires iconiques.
Non, mais iconiques par leur connerie. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est vraiment un peu terrifiant de se dire waouh, ces gars-là existent. Et en fait, le film a été fait assez rapidement. Ça a été fait en 4 mois, a priori. Et en fait, c'était une soirée qui était animée par, co-animée par Edoui Plenel et Taha Bouaf. Du coup, c'était super intéressant d'échanger avec eux.
That is. Pardon. J'ai pensé à Baout.
J'ai envie d'isoler ce daddies et d'en faire vraiment un petit jingle dans LMK quand on est horny on main.
C'est une très bonne idée.
Quand Kalindi parle de Camille Combal.
Et donc you. En fait...
Pardon.
Ouais, non,
bon, on va pas commencer à rentrer dans les débats, Anthony, hein, parce que... Bon.
Et du coup, ce que moi je trouvais assez bien foutu dans le documentaire, c'est que bon, déjà, on va pas se mentir, Mediapart, ils sont excellents en autopromo. Contextualisation, c'est un média indépendant et en fait, pour que les gens s'abonnent, ils vous donnent un petit peu la première dose gratuite, comme vous connaissez, et après, ils vous font ah, tu veux lire la suite? Bah super, bah tu payes.
Réservé à nos abonnés, tu peux.
Exactement. Et en fait, ils font beaucoup écho à leurs propres enquêtes en disant que globalement, ils ont écrit là-dessus et que si tu veux aller plus loin, coucou, 5 € par
Abonne-toi.
Mois.
Pour active les la cloche.
Absolument. Et ils faisaient déjà ça dans À l'air libre, qui était leur émission quotidienne. Et donc là, ils reprennent ça dans le documentaire. Et ce qui est intéressant, du coup, je trouvais, c'est qu'ils rebondissaient sur pas mal de choses qui ont été faites récemment là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas juste Mediapart qui parle de Mediapart par Mediapart.
Oui.
Ils parlent d'autres médias, de trucs qui sont arrivés dedans. Et ils parlent notamment de Merci Patron, le documentaire de François Ruffin, qui en gros, c'était un peu David contre Goliath, quoi. C'est-à-dire qu'il était parti de meufs qui bossaient pour LVMH, qui bossaient en usine et en gros qui avaient été virées par rapport à une délocalisation et qui étaient vraiment arrivées en mode écoutez, LVMH veut pas nous écouter, on va y aller à fond, on va s'imposer dans leur AG des actionnaires. Et en fait, du coup, il y a tout un moment du film où ils reviennent sur comment ça a été géré par un type qui s'appelle Bernard Squala.
Squarcini,
c'est ça. Et du coup, il se fait surnommer la Squale et c'est ça que j'ai retenu. Exactement. Et ce que je trouvais incroyable. Et du coup, on a des conversations téléphoniques entre lui et la secrétaire de Bernard Arnault. Et vraiment, genre, ils sont dans un film d'espionnage et ils sont en mode « Oui, l'individu François Ruffin se dirige dans le bâtiment. » Et vraiment, genre, François Ruffin, dans le documentaire, on voit vraiment ces 4 pélos qui débarquent à l'Assemblée avec des t-shirts « I love Bernard Arnault ». Et vraiment, ils parlent de trucs de sécurité vraiment en mode « Je pénètre le système. » Tu sais, avec les bruits des talkies, quoi.
Over.
Je trouve ça incroyable. Et il y a plein de moments comme ça où tu te dis, mais ces gens sont complètement hors sol. Et ce qui fait plaisir dans le documentaire, et je vais peut-être terminer là-dessus parce que je parle beaucoup.
Ok, c'est intéressant.
Je pense que c'est intéressant et en fait, ça permet de mettre en perspective beaucoup de trucs qu'on s'imagine sur le journalisme. Et en fait, ils rebondissent sur pas mal de choses, sur des sorties de Macron, genre qui avait dit aujourd'hui, on a des journalistes qui ne cherchent plus la vérité à partir du moment où, justement, sur les vidéos de Taha Bouaf, on avait dévoilé l'affaire Benalla. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles ils reviennent et je trouve que ça permet de les éclaircir et ça permet aussi de montrer que les médias peuvent être importants d'un point de vue démocratique, contre-pouvoir, blablabla. Mais tout ça sans être simplement dans un constat très sombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. On rebondit beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de médias indépendants, il y a beaucoup de thématiques qui sont soulevées, il y a du débat sur ces sujets-là. Et le fait de voir beaucoup de gens dans cette salle, beaucoup de gens qui étaient contents de débattre, je trouve que ça fait vachement de bien. Et du coup, plus que le documentaire, le fait de le voir en salle, je trouve que ça a été vraiment important et salvateur, surtout en tant que jeune journaliste, où vraiment j'arrive en mode « Alors, à quel point c'est la merde ici ?» Donc voilà, c'était assez intéressant d'avoir cette discussion avec... d'écouter cette discussion, parce qu'en vérité, j'ai pas pris la parole, avec tout le monde, et de voir ce documentaire que je vous incite du coup à aller retrouver soit en salle, soit dans quelques mois sur Internet, qui s'appelle donc Media Crash, qui a tué le débat public, et qui est réalisé du coup par Luc Herman et Valentine Auberti, que vous avez peut-être vu chez Quotidien un temps, où elle t'a fait.
Voilà. Très bien.
Voilà.
Passionnant. Merci Mathis.
Mais je vous en prie.
C'est peut-être l'occasion de rappeler que c'est important de soutenir la presse indépendante. Donc exactement. S'il y a des médias indépendants que vous aimez bien, soutenez-les, soit financièrement en vous abonnant par exemple à Mediapart, soit en partageant leur contenu. Je pense que c'est bien aussi de s'interroger sur, quand il y a un article qui sort qui est réservé à des abonnés, bah, peut-être on ne fait pas tourner le copier-coller de l'article si on a l'accès, ou on ne fait pas tourner le PDF, en tout cas pas publiquement. Choper un article de Mediapart pour l'envoyer à mon daron parce que ça l'intéresse, je pense que tout le monde le fait. Mais faire circuler l'article en entier sur les réseaux par exemple, bah, c'est pas hyper respectueux pour les journalistes et les médias qui ont besoin de ce soutien pour rester indépendants. Donc, soutenez la presse, éduquez-vous un petit peu à comment fonctionnent les médias et soutenez la presse indépendante.
Exactement.
Surtout.
Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'accès aux articles, c'est qu'on a beaucoup fait croire avec l'arrivée d'Internet que l'information n'avait pas de valeur et qu'on pouvait laisser plein de choses en libre accès. Et je vois ça même avec mes parents, quand moi j'ai écrit ma première pige pour Télérama, donc j'étais tout content et tout, et donc je leur envoie le lien, et ma mère fait « Ah oui, mais non, on peut pas le lire ». J'ai commencé à vous pouvez pas le lire. C'est parce que, en fait, c'est réservé aux abonnés. Je m'attends, en dessous, t'as une offre, genre 1€ le premier mois sans engagement. Genre, ça, je pense que vous pourrez manger le mois prochain, quoi. Et vraiment, elle était en mode, ouais, mais c'est compliqué.
Alors, en vrai, je comprends aussi le cap de s'abonner. Et en vrai, il y a beaucoup de médias, et ça, c'est pas cool. Où c'est facile de s'abonner et il faut sauter dans 8 cercles enflammés pour se désabonner.
Ouais.
Le Monde, par exemple, tu t'abonnes en un clic et il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour te désabonner, ce qui est un peu genre. Fraté, sérieux, vraiment,
c'est
un petit clic
pour
me désabonner, ça devrait être possible en 2022 quand même. Donc voilà, renseignez-vous un peu sur les conditions pour vous désabonner, mais soutenez la presse indépendante.
Et par absolument. Curiosité, vous êtes abonné à combien de médias, vous ?
Moi, je suis abonné à Les Jours, je suis abonné à... Enfin, après, avec Mademoiselle, on est abonné à Mediapart, mais sinon, je prendrai un abonnement perso. Je suis abonné au Diplo, et après, je soutiens des Patreons de créateurs de podcasts et tout, mais qui, du coup, bah, sont des médias, mais des Américains. Donc, je soutiens le Patreon de Contrapoint, qui est une youtubeuse qui fait énormément de... Enfin, je vous en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est top. Le Patreon de Jonathan McIntosh, qui fait Pop Culture Détective, dont c'est toi, je crois, que tu avais parlé.
Ouais.
Et le Patreon de Qualité, je crois. Le studio de podcast français, évidemment, avec Fibre Tigre, etc. Voilà. Donc, en tant que média, pas tant. Mais parce qu'avec Mademoiselle, on a accès aux principaux gros médias payants, donc Mediapart, Le Monde et tout. Si un jour, le jour où je serai plus chez Mademoiselle, je m'abonnerai au Monde aussi, je pense. Même si je sais que ce sera chiant de se désabonner.
Je
suis abonnée au Jour aussi, à La Disparition dont j'ai parlé il y a quelques temps, cet excellent service d'envoi de courrier reportage.
Incroyable.
Et après, je crois que je suis surtout abonnée à des médias américains. Je suis abonnée au Times. Au New York Times et au... Comment on appelle ça ? Au petit écosystème du New Yorker où t'as accès aussi à The Cut et compagnie. Et sinon...
Ah oui, je suis abonnée au New York Times aussi, oui.
Et sinon, quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Avec, les accès qu'on a chez Mademoiselle, du coup, pour pouvoir lire Le Monde et compagnie. Je crois que je suis plus abonnée chez Mediapart depuis que je suis chez Mademoiselle. Sinon, avant, je l'étais. Et voilà.
J'ai envie de m'abonner au Parisien pour leur scoop sur Koh-Lanta, mais j'ai pas encore passé le cap.
Moi de mon côté, je suis abonné à Mediapart depuis des années, je crois. Les Jours aussi, grâce à Aïda. Arrêt sur Image. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Je crois qu'il y en a plusieurs aussi où, à partir du moment où j'ai vu qu'avec la fac, j'avais accès à plein de médias avec des portails assez faciles, je crois que c'était Europress. Bah, en gros, je me suis désabonné de plusieurs trucs, mais je compte bien me réabonner dès la fin du Master 2, quoi, très clairement. Voilà. Après, j'achète aussi beaucoup en kiosque comme un vieux.
Comme une vieille
personne. Mais ça, je suis pas du tout régulier là-dessus, donc heureusement qu'il faut pas compter sur moi là-dessus. J'achetais beaucoup Néon, typiquement.
Yes.
Qui est décédé.
Ah, mon mec est abonné à Canard PC, donc je lis Canard PC de façon réglo.
Et toi, Anthony ?
3-4 médias, ouais. Mediapart, New York Times, et le troisième, je sais plus. Et Le Monde.
Après, voilà, on parle de soutenir des médias indépendants. Tous les médias qu'on a cités ici et qui sont payants ne sont pas forcément indépendants. Là, oui. Tu peux être un média payant, comme Le Parisien, et ne pas être un média indépendant et appartenir quand même à un très grand groupe avec un milliardaire tout en haut. Donc renseignez-vous sur quels médias vous voulez soutenir et tout, ce qui ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de soutenir des médias qui appartiennent à des grands groupes, parce qu'à la fin, il y a des journalistes qui travaillent et tout travail mérite salaire et tout, mais posez-vous des questions. Où va votre argent? Qui est-ce que vous voulez soutenir? Tout ça, renseignez-vous un peu.
Clairement.
Merci Mathis pour cette discussion très de gauche, finalement, comme d'habitude dans
Laisse-moi kiffer. Exactement, c'est ce que je me suis dit, je vais gauchiser encore un peu. Gauchiser et hijacker le podcast. Parce que oui, je peux faire ça, parce que je fais ce que je veux, vous allez faire quoi? Plus sérieusement, je vous arrête pour vous parler d'une mini-série qui me tient à cœur, déjà parce que c'est moi qui l'ai faite, et puis parce qu'elle traite de sujets importants. Je viens vous parler de Mon corps, ce poids, un podcast qui sort le 7 mars et qui a déjà sa bande-annonce. Écoutez plutôt.
Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po. Parce que moi, je voulais devenir actrice. Le problème, c'est que j'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler. À Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire d'Auxerre, j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteure et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps, ce poids, une mini-série produite par Mademoiselle.
Retrouvez Victoire, Mélanie et moi en live Twitch le mercredi 9 mars à 19h. On répondra à toutes vos questions sur la mini-série et à vos éventuels retours sur l'épisode 1 qui sera sorti le lundi. Bonne écoute.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ah, ce podcast de wokisme. Aïda, speaking of wokisme.
Bonjour.
Mon kiff aujourd'hui est un kiff sponsorisé par un auditeur ou une auditrice de Laisse-moi kiffer.
Waouh.
Je n'ai plus le screenshot de cette personne qui a envoyé un DM au compte de Laisse-moi kiffer pour dire « Salut Aïda, tu veux partir au Groenland? J'ai un super podcast à te recommander.
»
qui s'appelle Les Baladeurs, un podcast d'un média qui s'appelle Les Others. Les comme L-E-S en français et Others comme les autres. Eh bien, merci à cette personne, car je suis obsédée par ce podcast.
I am obsessed.
My obsession. Obsession en espagnol, je vais le dire dans toutes les langues.
Shakira, c'est toi?
Bien sûr. Vois-tu mon déhanché?
Moi, oui, mais pas vous, parce que c'est un podcast, vous avez le seum.
Les baladeurs, c'est incroyable. Vraiment, merci cette personne. Tu mériterais que j'ai retenu ton hâte et ton prénom. N'hésite pas à m'écrire dans mes DM.
Je cherche en vain.
Tu mériterais que juste retenu, non? Mais bon, bref, pas.
Que juste retenu, oui, en effet. C'est le matin. Comme si j'utilisais juste parfois à l'oral. Non, c'est pas vrai, c'est pas le matin, c'est juste moi qui conjugue mal.
Ça va se calmer, Madame Pichard, à corriger les fautes des collègues.
Hein. Non, c'est vraiment une question.
Je sors le stylo rouge.
En tout cas, Les Baladeurs, c'est un podcast d'aventure en extérieur. Parce que Les Others, c'est un média qui parle d'outdoor en général, de sport de nature, de sport d'extérieur.
Tout ce moi, que j'aime. Les grands espaces et le sport.
Plonger sous l'océan, c'est épouser le monde du silence. Pénétrer un univers vaste qui renferme plus de mystères que des planètes lointaines. Un univers où la lumière s'arrête aux frontières des profondeurs. S'immerger sous la banquise du pôle Nord géographique, là où le blizzard souffle sans entracte et le thermomètre affiche moins 45 degrés, est une toute autre aventure. Dans ces eaux inhospitalières, le corps et l'esprit doivent s'allier pour former une entité sans faille. Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardoux ont voulu comprendre, raconter et documenter les dessous de cette banquise. Commence alors, le 26 mars 2010, la première expédition de leur projet, Under the Pole. Un périple à ski de 45 jours, ponctué par des plongées glaciales entre le pôle Nord et la côte canadienne.
Moi, la première fois qu'on m'a mis un exemplaire de ce média entre les mains, parce que c'est un média en ligne, mais c'est aussi une parution papier, qui est d'ailleurs vachement bien publiée, c'est un truc qui est très joli. Moi, la première fois qu'on m'a mis ça entre les mains, je me suis dit, bah voilà, un truc d'outdoor, je sais pas, j'y connais peu de choses, je sais pas si ça m'intéresse forcément, est-ce que ça va être un média sur l'alpinisme ou des trucs qui me terrifient, tu vois, de la spéléologie, je ne sais pas. Donc je l'ai feuilleté, je me suis dit, ok, c'est beau, il y a des belles photos, et après je l'ai laissé dans un coin. J'ai pas donné suite à ma prise de connaissance de cet objet. Et après, j'ai entendu parler de ce podcast que je suis allée écouter direct en mode, bon, si ça parle du Groenland, vas-y, ça va forcément être cool et ça va forcément m'apprendre des trucs pour mon voyage initiatique. Et en fait, c'est hallucinant. En gros, c'est des gens qui racontent des aventures en plein air, mais souvent pendant des expériences qui sont complètement folles et très très éloignées de, tu vois, moi je sais pas, je me disais, bon, les baladeurs, ça va être des gens qui vont nous raconter des randos ou des trucs comme ça.
Des backpackers.
Ouais, voilà. Pas du tout. Ça nous raconte des histoires de gens qui vont faire des expéditions au Groenland et qui se perdent dans le blizzard groenlandais. Ça nous raconte des gens qui vont chercher des trucs en Amazonie. Enfin, après, il y a aussi des histoires de backpackers, je pense, car il y a 5 saisons, c'est très long et j'ai pas encore tout écouté. Donc il y a des histoires qui sont un peu plus, je pense, proches du quotidien de ce qu'on pourrait vivre. Mais moi, les premiers trucs sur lesquels je suis tombée, c'est un groupe de gens décide d'aller faire de la plongée sous-marine en Arctique sous les icebergs et ils racontent comment ils se préparent, comment ils montent sur un bateau, ils battent la glace et tout. Et en fait, c'est très très bien monté. C'est raconté de manière vachement intime. Donc on se sent très proche des personnes, on a l'impression que les gens sont en face de nous en train de boire un coup et sont en mode « Ah bah tiens, je t'ai jamais raconté, la fois je me suis perdue dans le blizzard au Groenland et que j'ai vu des ombres. » Et je me suis demandé ce que c'était que ces ombres.
Oh non !
Et t'es là, what ? Donnez-moi en plus ! Donc voilà, il y a pas mal de suspense dans les histoires des gens, parce que comme c'est des histoires relativement extrêmes, bah, y a aussi souvent des plot twists, des petits soucis qui arrivent pendant des grandes expéditions. Il y a des gens. Alors il y a un épisode d'un snowboarder français, dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, qui raconte comment il a participé à l'extradition de snowboarders afghans au moment où les talibans ont pris le contrôle de Kaboul.
Snowboarder afghan, c'est une association de mots que j'ai peu entendu dans ma vie, quoi.
Bah ouais, c'est en fait c'est que des histoires extraordinaires comme ça.
Lévrier, oui. Snowboarder moins.
Et wow. Et voilà des gens qui se perdent sur la banquise. Moi vraiment j'étais en mode team grand froid dès le départ, donc j'ai pas écouté les trucs dans le désert, j'ai écouté que les trucs où les gens ont froid et ont des engelures globalement.
Et c'est perdre des doigts.
Il y a aussi des histoires de chasseurs de tornades aux États-Unis. Enfin, voilà, plein de choses qui racontent l'immensité et la puissance de la nature avec des gens qui se sont retrouvés face à ça, qui ont cherché à l'être aussi et qui racontent comment ils se préparent. Moi, j'ai aucune idée de comment on se prépare à plonger sous la banquise à moins 30 et aller filmer des icebergs en train de fondre pour alerter sur le réchauffement climatique.
Je fais peu ça le mardi après, mais bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent.
Eh bien, maintenant, je sais un petit peu grâce à ce podcast. Ça donne envie de voyager, ça donne envie d'aller voir des trucs, ça fait rêver quand j'écoute ça dans le métro en heure de pointe, j'ai l'impression de plus être dans la 4, mais d'être dans un endroit beaucoup plus agréable, avec des choses à apprendre. Le montage est super immersif, donc la musique est trop cool, tout est très propre, enfin voilà, vraiment c'est un des meilleurs podcasts que j'ai entendu de mon existence, sachant qu'il y en a certains auxquels je participe, donc vraiment...
<C'est> vrai. Qui sont donc bien sûr dans le top.
Et qui sont évidemment dans le top, comme ce que j'aurais dû dire à mon ex, que vous pouvez écouter sur Mademoiselle et sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi Laisse-moi kiffer. Voilà, c'est trop bien. Je recommande à 12 000% pour tous les gens qui ont envie d'aller courir partout comme moi, mais qui ont peur ou qui n'ont pas de cardio. Qui ont donc besoin de le faire par procuration.
Ou de s'entraîner davantage, voilà.
The Shade.
C'est un podcast que j'adore aussi et ce que je te recommande et je recommande à vous toutes et tous qui écoutez Laisse-moi kiffer, personne de goût que vous êtes, c'est de l'écouter aussi au calme parce que c'est enregistré en son
binaural. Au
calme
et en x2 ou au calme et en pas x2?
En calme et pas x2 parce que c'est enregistré en son binaural, donc en fait le son est spécialisé et donc en fait quand la personne raconte oui j'entendais des gouttes d'eau, et ben en fait parfois il y a des effets de bruitage, ouais, hyper bien faits. et t'entends la goutte d'eau qui tombe à sa droite ou à sa gauche, très loin ou très près. C'est vraiment, l'immersion, elle est aussi dans l'enregistrement, la qualité du son, extrêmement travaillée. Et c'est l'un des rares podcasts où je me dis, OK, là, il y a du taf de mixage et de montage qui est hyper bien calibré. Et voilà, c'est une expérience encore plus immersive si tu l'écoutes au calme. Je sais pas dans ton vie. Donc voilà, mais vraiment, écoutez-le, c'est génial, ouais.
Est-ce que je peux dire les noms des gens qui ont participé à ce podcast, parce que je les connais pas par cœur, mais je les ai sous les yeux pour pouvoir féliciter tout le monde?
Bah bien sûr. Féliciter les Oscars. Remercier. Je voudrais embrasser ma maman.
J'ai un problème Benoît. Avec les félicitations.
Si c'est trop long, je fais partir la petite musique derrière.
Allez. Non, mais sur la saison 5, blablabla, la saison produite par Les Others, réalisée par Thomas Fir, présentée par Clément Saccard, qui a une voix extrêmement envoûtante et qui fait des très belles intros. Mise en musique par Nicolas Deferrand, mixée par Laurie Galligani et montée par Chloé Wibo, ou Vibo, je ne sais pas comment ça se prononce. Merci à vous tous et toutes pour ce travail de ouf. Voilà, c'est trop bien que ça existe, je suis trop contente de l'avoir découvert. Merci au LM Chat. Ou à la LM Chat. J'ai décidé d'appeler les gens qui écoutent.
Attends,
laisse-moi kiffer comme ça maintenant.
Les LM Chat, j'aime bien. Ok, les LM Chat, on va réfléchir. Dites-nous si vous aimez bien.
Jean-Pierre Kiff.
On fera un sondage. Pas les Jean-Pierre Kiff. Non. Kalindi n'est même pas là.
Voilà, merci, c'était trop bien.
Merci Aïda.
J'allais dire les kiffeurs, mais en vrai, les gens savent peut-être que ça veut dire autre chose dans la communauté gay. Non.
Non, putain,
j'ai pas du tout la ref.
Ok, bah les kiffers, c'est les fétichistes du look survêtement, jogging et basket de sport, particulièrement les Nike TN. Donc voilà, vous le saurez, vous mourrez moins.
C'est très spécifique. Ouais.
Mais c'est très répandu, figurez-vous. Parce que
Je comprends, un mec sexy en survêt, c'est tout à fait... C'est oui, mon image mentale fonctionne, je suis là, yes.
Pour moi, c'est un truc particulier aux banlieues parisiennes, et en fait, non, c'est aussi répandu, genre en Europe de l'Est, au Royaume-Uni, où on appelle ça des... Ladders ou la...
C'est pas les chavs.
Ah, parce qu'il y a les lads.
Il n'y a pas un truc avec les chavs.
Les chavs, c'est les gens en vulgos, mais pas forcément en jogging. C'est okay. Les chavs, c'est ce qu'on appellerait en France. Non, je ne sais même pas s'il y a d'équivalent en français, mais...
Ouais.
C'est les gens orange, hyper popu et grossier. Enfin, c'est hyper insultant et méprisant
c'est
comme
terme. C'est classe populaire mais... blanche. Non, c'est pas connoté.
Attendez, on digresse trop là. Mais franchement, ce podcast, il est long, il est midi. On va avancer. Ok, on coupera ça. Enfin, on s'arrêtera à la définition de kiffer parce que c'est intéressant. Ok. Quel est ton kiff, Anthony?
Ah, mais j'allais faire un triple kiff. Mais d'accord.
Non, désolé.
Ok, bah je vais en nommer un seul. Et j'espère que je serai réinvité effectivement. C'est
non.
Juste vous recommander une pièce de théâtre qui est jouée en ce moment à Paris. Je sais, c'est très parisien, mais si vous passez peut-être par Paris un jour, c'est joué jusqu'au 15 avril 2022. La pièce s'appelle The Normal Heart. C'est une pièce qui a été écrite en 1984 et créée en 1985 à New York par Larry Kramer. Larry Kramer, c'est un activiste de la lutte contre le VIH-Sida. Donc dès les années 80, au tout début, il était au tout début de cette lutte-là parce que ça a été l'un des premiers à comprendre la gravité de la situation, soutenu notamment par une médecin qui lui faisait comprendre qu'en fait, il pouvait agir, parler à l'ensemble de la communauté pour lutter contre cette épidémie qui touchait en particulier les hommes gays à l'époque. Et donc, il a créé en 1982 l'organisation Gay Men's Health Crisis. Et quelques années après, il a fondé ACT UP. Et bref, cette pièce de théâtre, elle a été créée, mise en scène, adaptée... elle a été mise en scène et adaptée en France pour la première fois l'an dernier, l'automne dernier. Et là, elle est jouée au théâtre La Bruyère par une troupe génialissime, vraiment. Parce qu'en fait, c'est une pièce qui est très, très... Enfin, il y a énormément de textes, donc c'est impressionnant. Et en plus, c'est du texte qui te fait passer par des montagnes russes émotionnelles. Un coup, tu pleures, un coup, tu ris, un coup, tu es enragé, un coup, tu te sens engueulé par les comédiens et comédiennes. Donc voilà, je vous la recommande chaudement. C'est sur l'histoire du début de cette épidémie. Comment est-ce que des militants, enfin des personnes lambda, se sont dit en fait, il faut qu'on agisse, il faut qu'on s'organise pour lutter contre
parce
la propagation de cette maladie.
Parce que les pouvoirs publics faisaient pas leur travail, parce que
voilà.
Bonne partie à cause de l'homophobie, quoi.
Voilà, effectivement, c'est que en fait, plusieurs fois, ces militants ont essayé d'interpeller les pouvoirs publics, notamment le maire de New York, pour demander des fonds, des aides, des locaux, et en fait, personne ne faisait rien. Alors même que, en parallèle, pour d'autres choses qui tuaient beaucoup moins de personnes, le gouvernement mettait davantage de moyens, quoi. Donc voilà, c'est The Normal Heart, c'est au théâtre La Bruyère jusqu'au 15 avril 2022. Et je voudrais au moins nommer la personne qui a adapté et mis en scène cette pièce. Donc c'est une femme, c'est Virginie de Clausade, donc extrêmement talentueuse, vraiment la mise en scène est extraordinaire et à la fois hyper minimale, à la fois très 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 puissante. Et il y a aussi la femme qui tient le rôle de la médecin en fauteuil roulant dans la pièce de théâtre. Elle s'appelle Déborah Agral. Et extrêmement douée aussi. Enfin, sa performance m'a scotché, vraiment. Voilà, donc allez au théâtre, voir cette pièce ou d'autres. Je vous recommande chaudement cette pièce qui est en fait un bout de l'histoire internationale parce que en fait c'est parti de là, mais ça nous concerne toutes et tous. Et l'épidémie n'est pas finie, donc voilà.
Est-ce que... Pardon, t'allais dire quelque chose, Mimi. Je t'ai senti rapprocher ton micro de ta...
Mais non, mais tu peux y aller en premier.
Est-ce que c'est comparable en termes de façon dont c'est raconté à genre Angels in America, je sais pas si tu l'as vu, de Tony Kushner qui est sur le même sujet et qui a été écrit dans les mêmes années, je crois, non ?
C'est moins fantastique, parce que j'ai l'impression qu'il y a des anges, des
oui,
choses comme ça.
Oui, ouais. Oui, c'est...
Avec Meryl Streep, non ?
Oui, oui, c'est complètement... Bah, alors ça, c'est l'adaptation en série qu'il y a eu, mais de base, c'est une pièce de théâtre, Angels in America.
Bah, je sais pas, parce que je l'ai pas trop en tête, je l'ai vu il y a très longtemps, mais... Okay. Mais qu'importe, c'est deux œuvres à part entière qui peut-être ont une filiation commune, mais parce que, surtout elles traitent du même sujet peut-être. Mais en tout cas, The Normal Heart de Larry Kramer, c'est vraiment une pièce de théâtre culte aux États-Unis et c'est la première fois qu'elle est en France, donc foncez-y, elle est géniale.
Ok.
Et si jamais vous ne pouvez pas venir à Paris au Théâtre de la Bruyère voir The Normal Heart, il y a eu un téléfilm HBO qui est du coup dispo sur OCS en France. Moi, c'est comme ça que j'avais entendu parler de The Normal Heart. Parce qu'en plus, c'était HBO, donc il y a souvent du budget, hein, c'est la chaîne de Game of Thrones, etc. Et il y a des gros acteurs dedans, des acteurs connus. Donc il y a Mark Ruffalo, il y a Jim Parsons qui joue Sheldon dans Big Bang Theory. Il y a plein d'acteurs connus qui racontent du coup cette histoire de The Normal Heart. Et il m'avait... laminé émotionnellement. Vraiment, je l'ai regardé avec deux copines en mode, ok, on prend des plaids, on prend de la glace, on prend du vin parce que ça va être dur. Et on était en PLS à la fin, allongés par terre, à être là. C'est dur, hein, mais parce que c'est une histoire qui est dure et qui est triste, mais qui est réelle. Et je regrette absolument pas de l'avoir vue. J'avais fait un article sur Mademoiselle qu'on vous mettra dans la description parce que il est vraiment très cool. Mais du coup, c'est pour les gens qui ne peuvent pas aller à Paris ou attendre que peut-être The Normal Heart parte en tournée, on espère. Bah, vous avez déjà ce téléfilm qui est hyper quali, qui n'a rien à envier à un film. Sur grand écran.
C'est Ryan Murphy qui l'a réalisé.
Ah oui, lui. C'est Ryan Murphy, tout à fait.
En même temps, tout le casting, c'est...
American Crime Story, O.J. Simpson, Glee, American Horror Story, blablabla, Ryan Murphy, voilà. Évidemment. Je ne saurais pas dire du coup comment ça se compare à la pièce, puisque je n'ai pas vu la pièce, mais il me semble que les critiques étaient bonnes, même des gens qui s'y connaissent. Et je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec le fait de voir la pièce. Moi, j'ai vu le film, mais j'ai quand même envie d'aller voir la pièce, parce que déjà, je pense que le ressenti est totalement différent quand tu as des gens devant toi. Mmh. Et puis, le théâtre et le cinéma, c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, vous avez un plan B si jamais le théâtre de la Bruyère est un peu loin de vous. Merci Anthony. Alors, je suis contente parce que tout à l'heure, tu as parlé d'immersion sonore et de binaural. Et j'étais là, yes, ça va faire un très bon écho à mon kiff.
Tu as découvert une chanson ?
Mon kiff, c'est... Non, je n'ai pas découvert de chanson. Ça arrive deux fois par an. Attends, j'ai découvert Taylor Swift il y a deux mois grâce à Anthony. Redonnez-moi six mois avant de vous reparler d'une chanson, quoi. Donc, j'ai fait un truc de ouf. J'avais aucune idée de à quoi ça ressemblerait. Et c'était vraiment un moment... hyper intéressant de ma vie. J'ai testé une escape, ce qui est présenté un peu comme une escape audio. Donc une escape genre escape room ou escape game, mais en audio et donc à distance. Et c'est un truc qui s'appelle Sable Noir. Et j'étais là, j'aime bien le nom, j'aime bien le concept, j'adore les escapes et j'écoute beaucoup de choses, beaucoup de podcasts et tout. Donc je me dis, escape en audio, c'est intriguant. Mais j'avais un peu du mal à me représenter à quoi ça ressemblait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec 5 potes, donc une équipe, comme dans une escape, sauf qu'on était chacun chez nous. Okay. On aurait pu le faire dans la même pièce, mais il faut que chacun soit sur Zoom et tout. Enfin, c'est un Zoom, en fait, le truc. Et pendant 1h30, c'est une expérience immersive narrative. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur Zoom et la personne... Donc, il y a une personne qui nous accueille, un maître de jeu, dans mon cas, une maîtresse de jeu. Et elle nous dit, OK, il y a plusieurs trucs à faire pour être prêt. Donc, prenez, si vous voulez, de l'eau, du machin. En gros, préparez-vous à rester devant votre ordi pendant 1h30 et à ne pas en bouger parce que vous allez vous bander les yeux. Ou alors, vous pouvez fermer les yeux, mais fermer les yeux pendant 1h30, c'est très chiant. Donc, j'étais là, OK, je sors mes masques pour le dodo et tout. On a l'air complètement con. J'ai des masques en moumoute avec marqué fuck off dessus. Enfin, on était très bégés avec mon mec chacun dans sa pièce chez moi, maintenant qu'on a un appart avec des pièces.
Oh mon Dieu.
Et quand l'expérience commence, bah, en fait, c'est une expérience immersive qui est entre l'escape et le jeu de rôle, où la personne te narre le contexte et au bout d'un moment, elle est là, bah, comme dans Game of Thrones. Que faites-vous ? Et du coup, bah, t'es dans des pièces et t'as des énigmes à résoudre, tu peux faire diverses choses. Et l'intrigue qu'on a fait, nous, c'est des expéditions en territoire onirique. C'est très joliment dit et c'est très vrai. puisque l'intrigue qu'on a fait, c'était littéralement, en gros, on va au pays des rêves. Donc on est plongé, l'intro, c'est un countdown pour s'endormir, qui est franchement hyper relaxant. J'étais là, mais c'est chaud, moi je vais vraiment m'endormir en fait. Je suis sur mon canapé, j'ai un plaid, j'ai un masque sur les yeux, ça peut partir vite. Et en fait, c'est un countdown pour s'endormir. Et là, on arrive au pays des rêves, qui est menacé par les cauchemars, qui sont représentés par du sable noir, d'où le nom sable noir de l'expérience. Et ces cauchemars sont des tentacules de sable noir qui englobent et absorbent différents éléments du pays des rêves. Nous, notre mission, on est devant un grand château qui est quasiment recouvert entièrement par le sable noir. On sait que dedans, il y a la chambre de la reine, que dans la chambre de la reine, il y a une perle, et que la perle, c'est l'origine du sable noir. Donc, il faut qu'on trouve la perle et qu'on fasse soit qu'on la détruise, ou en tout cas qu'on fasse en sorte de désamorcer le sable noir. Et du coup, elle nous pitch tout ça, et elle est là, « Ok, devant vous, il y a une entrée, que faites-vous ?» Donc au début, t'es là, « Bah, on va vers l'entrée, j'imagine. » Et assez vite, on est comme on a l'habitude de faire des escapes avec mes potes, on était là, « Ok, alors attends, on regarde autour de nous s'il n'y a pas une menace qui s'approche. On va faire le tour de la pièce, je prends le truc lumineux et je fais le tour de la pièce avec pour voir s'il n'y a pas différents trucs. » Mais tout ça que en audio. Et du coup, bah, la maîtresse du jeu, comme un maître de jeu dans un jeu de rôle, nous dit « Il se passe ci, il se passe ça. Ok, tu notes que tu as pris tel objet lumineux, tu vas pouvoir l'emmener avec toi et tout. » Et du coup, bah, c'est toute une intrigue de pièce en pièce dans ce château immergé, menacé par les cauchemars. C'est très beau, il y a un côté... Moi, ça m'a fait beaucoup penser au film Anastasia, quand ils reviennent dans le palais des tsars et qu'il y a la salle de bal et qu'elle revoit les fantômes de sa vie qui dansent et tout. Enfin, j'étais vraiment immergée à fond. Et bah, comme on disait tout à l'heure, tu parlais du binaural, donc c'est le fait de pouvoir spatialiser le son. Et du coup, ça demande d'avoir un bon casque. Ils te conseillent d'écouter ça au casque. Et au début, ils font des tests de « est-ce que vous entendez bien ce son-là à gauche, ce son-là à droite ?» Parce qu'il y a des moments où, comme dans la vraie vie, tu te déplacerais, bah, tu vas lui dire « je me déplace à gauche ou à droite en fonction de ce que tu entends. » Par exemple, il y a une menace. À un moment, il y avait des méduses électriques qui faisaient du coup un bruit genre « bzzzt ». Et en fait, pour les traverser, bah, elle t'envoyait le son d'un côté ou de l'autre et tu devais dire « Ok, je vais à gauche parce que t'as entendu le son de la méduse à droite. » Donc t'es vraiment en train de te représenter. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a vécu la même expérience ensemble. On peut pas se séparer, on peut pas dire « moi je vais là » parce que en vrai, c'est déjà un bordel dans les escapes physiques quand tu te sépares, mais alors à l'oral, c'est pas possible. Mais on n'a pas vécu la même expérience puisqu'on on était chacun dans notre imagination. Donc mon château, c'est pas le château de mon mec, c'est pas le château de ma pote qui a aussi un château différent parce que chacun a sa représentation du château. Et je trouve que ça apporte quelque chose de très unique dans une expérience collective, de se représenter son propre... Enfin, d'être dans son propre imaginaire, finalement, qui est cadré par ce storytelling. Et j'étais un peu perplexe au début parce que je trouvais ça assez linéaire. J'étais là, en fait, j'ai pas l'impression qu'on a 1000 options et j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois un peu tout ce qu'on pourrait faire dans la pièce avant de passer à autre chose. Donc je me suis un peu dit, en fait, est-ce que c'est possible de perdre ? Est-ce que c'est possible d'avoir un autre type d'intrigue, un autre dénouement ? Parce que j'étais là... Bon, concrètement, ça avait l'air assez linéaire. Et en fait, la maîtresse du jeu nous a expliqué à la fin en débrief que oui, c'est possible, ça peut même mal finir. Il y a des équipes qui n'y arrivent pas, il y a des fins qui sont tragiques et tout. Donc j'étais là, je suis curieuse, j'ai envie de le refaire mal pour rater, pour voir ce qui se passe. Et en fait, il y a pas mal d'options, de scénarios différentes qui font que tu vas pas vivre la même aventure à chaque fois et que t'as pas l'impression d'être sur un tapis roulant un peu caché, quoi. C'est un peu frustrant des fois, je trouve, quand tu fais des escapes et tout, que tu te rends compte que ton sentiment de liberté est quand même hyper factice et qu'en vrai, t'es sur un rail, mais on essaye de te faire croire que t'as des choix. J'aime bien avoir vraiment des choix et avoir en plus plusieurs fins et tout. Et là, bah, y a plusieurs fins, y a plusieurs façons de vivre l'aventure, donc je suis curieuse, même peut-être, ouais, de la refaire. Pour les infos pratiques, donc ça s'appelle Sable Noir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire de partout, puisque c'est en audio sur Zoom. Donc, contrairement aux Super Escape qui sont genre... à l'autre bout du monde et où je suis là, bon bah cool, les meilleurs escape games de Tokyo, mais je vais pas y aller aujourd'hui. Sable noir, c'est partout. Et ça coûte à partir de 16€ par personne pour 1h30, ce qui est beaucoup plus accessible qu'une escape classique qui est plutôt autour de 25-30€ par personne pour 1 heure. Parce que voilà, c'est dématérialisé, ils ont pas de locaux à payer et tout, donc c'est normal. Mais je trouve que 16€ pour 1h30, franchement, c'est réglo. Surtout que c'est une aventure assez unique quand même, assez inédite. Et ça peut se jouer jusqu'à 6 personnes pour ce scénario-là, en tout cas. Donc nous, on était 5. En vrai, 5, c'est... Je pense que, contrairement à une escape, pour le coup, il y a quand même moins la pression du temps. Même si tu sais que ça va pas durer 4 heures, quoi, mais il y a aucun moment où on nous a dit attention, il ne vous reste plus que quelques minutes et tout. Mais il y a quand même une mécanique de temps pour les gens qui traînent trop. On lui a demandé après, on lui a dit est-ce que on peut perdre parce qu'on met trop de temps, comme dans une escape où bah, t'as, généralement t'as une heure et après t'es coincé. Et elle a dit oui, on peut. Et le scénario amène cette idée de genre, en gros, amène une urgence. Si jamais les gens traînent trop, tu vas avoir des trucs genre attention, le sable noir se rapproche, avec des effets sonores qui te mettent en pression de ok, faut qu'on avance. Donc c'est quand même possible de perdre parce qu'on prend trop de temps. Mais là, on a fait 1h20, on était à 5. Franchement, c'était bien. Je pense que à 2, c'est peut-être. Enfin, en fait, pour le coup. À deux, je pense que ça se fait très bien. Il faut juste avoir un peu l'habitude des escapes, du jeu de rôle, de savoir fouiller partout et tout. Mais entre deux et six personnes, c'est super. Solo, c'est peut-être un peu... On s'ennuie peut-être un peu solo. C'est quand même bien à vivre à plusieurs. Mais voilà, c'était génial. Et j'adore découvrir des nouveaux concepts. Et bah, j'adore les escapes et j'adore le jeu de rôle. Donc forcément, une escape jeu de rôle en immersion sonore binaurale, j'étais là, oui, c'est ma cam, c'est Mimicor. Et j'ai passé un super moment. Donc voilà, je vous encourage à tester Sable Noir, si ça vous intéresse.
Est-ce que si on n'a jamais fait d'escape game, c'est cool quand même, tu penses ?
Oui, je pense, parce que c'est quand même assez logique dans le sens où, bon, bah voilà, premier truc, t'arrives dans une pièce, elle te dit, il y a tel truc qui émet de la lumière, il y a tel et tel objet, il y a un aquarium vide, il y a un aquarium avec un truc dedans, et il y a une ouverture. Bon, bah, tu fais quoi ? Je pense que même si t'as pas fait d'escape, au pire, tu galères un peu, mais au bout d'un moment, t'es là, bah, je vais voir le truc qui brille, ou je vais voir l'aquarium, ou je vais prendre la porte et tout. Et puis, t'as quand même un petit moment de briefing avec la maîtresse du jeu avant, donc tu peux tout à fait lui dire, bah, comme dans une escape classique, j'en ai jamais fait, comment ça fonctionne, est-ce que vous avez des tips et tout. Mais les tips, c'est être curieux, aller partout, et tout essayer, comme en plus, il y a rien de physique, t'as pas peur de casser un truc qu'il faut pas, parce que dans les escapes, ils sont tout le temps en mode, n'arrachez pas les prises, ne détachez pas les tapis, ne faites pas des trous dans le mur, il y a rien derrière, parce que les gens sont zinzin. Là, bon, je peux dire, je lance une chaise contre la paroi, il va rien se passer, j'aurais pas de dommages à intérêt à payer, donc c'est cool. Donc faut, je pense que le plus on se sent libre et plus on improvise, plus c'est fun. Et je pense que la MJ est aussi s'adapte à l'improvisation comme une MJ de jeu de rôle, encore une fois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer qui vont être re-rentrées dans le scénario, même si elles n'étaient pas prévues à la base, quoi. Genre nous, j'ai des potes qui ont fait des choix où j'étais là, c'est une super idée, j'y ai pas pensé, et je suis pas sûre que c'était intégré, que tous les choix étaient prévus dans le scénario, mais à la fin on est retombé sur nos pattes quand même. Voilà,
ça a l'air trop stylé.
En vrai, ouais, c'était trop cool. Et bien ma foi, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer numéro 182. Merci, chère équipe de Choc, pour cet épisode.
Merci. Merci.
On rappelle que Anthony reviendra aussi souvent que vous le voulez et aussi souvent qu'il veut pour nous faire des triples kiffs. Donc, il sera bientôt de retour dans Laisse-moi kiffer. Merci à toutes et tous pour vos commentaires, vos messages bourrés, vos dédicaces et autres DM que vous nous envoyez avec amour, soit sur laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com, soit sur le compte Instagram @laisse-moi-kiffer et non @lmk. Désolée pour les gens bourrés qui trouvent que c'est très long à taper. C'est la vie pour le référencement, c'est important. On se dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain, et on vous fait des gros bisous. Bye bye.
Bisous.
Bisous.